Bonjour, Marco, Compte à rebours. Compte à rebours, des histoires, des contes à la radio. Quoi de plus idéal comme média que la radio, la bonne vieille radio pour écouter des histoires. D'ailleurs, je ne suis pas le premier, ni même le dernier, mais si on va chercher du côté des ancêtres, parce que la radio n'est pas si vieille quand même, hein, radio, elle a commencé au siècle dernier, on va dire, hein. Eh bien, les grands ancêtres des contes à la radio, vous vous rappelez sans doute de Henri Gougaud. Je l'écoutais non pas quand j'étais petit, mais quand j'étais jeune, on va dire, en tout cas moins vieux. Sur France Inter, il avait une émission qui s'appelait, je crois, Le Grand Parler, ou quelque chose comme ça. C'est un homme toujours vivant, toujours vaillant, toujours conteur d'ailleurs, qui a beaucoup fait pour faire connaître les histoires et revenir aux contes traditionnels et toutes sortes de contes. Il a écrit aussi. Bref, c'est un pionnier du renouveau du conte et je vais un peu lui rendre hommage en racontant une de ses histoires. Et alors, une fois n'est pas coutume, d'habitude, c'est vrai, les histoires se suffisent à elles-mêmes. On dit que à la fin d'une histoire, lorsque on doit dire bien si vous voulez savoir ce que veut dire cette histoire et qu'on commence à donner des explications, ou bien lorsqu'à la fin d'une histoire on trouve une morale à rajouter à l'histoire elle-même, c'est toujours en trop. Il y a quelqu'un qui disait, j'ai dû déjà citer cet homme à cette antenne, mais je le refais, c'était le fondateur de la secte soufie des Naqshband, et je me rappelle plus trop bien de son nom, surtout son prénom qui est un peu compliqué, mais enfin, en tout cas, et un de ses disciples lui disait, écoute, tu nous racontes toujours des histoires, c'est très bien, mais tu nous donnes jamais les clés pour les comprendre, ces histoires. Et lui a répondu en disant, mais que dirais-tu si quelqu'un t'offrait un fruit, mais avant vraiment de te le donner, il le mangeait lui-même et te donnait dans la main la peau et le noyau. Voilà donc pourquoi on n'en rajoute pas, les histoires sont censées se suffire à elles-mêmes. Mais là, il y a une histoire qui est au cœur d'un livre d'Henri Gougaud qui s'appelle « Le rire de la grenouille ». Qui n'est pas un livre de contes à proprement parler, puisqu'il s'intitule « Petit traité de philosophie artisanale ». Eh oui, c'est pas de la philosophie industrielle, ni de la philosophie compliquée. Il a bricolé ça dans sa cuisine, dans son atelier. Bon, il y a beaucoup d'histoires aussi pour éclairer cette philosophie artisanale. Et donc là, c'est l'histoire de Sarsenbaï, où il y a quelques commentaires, quelques remarques qui nous concernent au milieu de cette histoire, et je les ai, ma foi, laissées. Ce sont des commentaires, bien sûr, de Henri Gougaud lui-même. Donc voilà, extrait du Rire de la grenouille, d'Henri Gougaud, l'histoire de Sarsenbaï. Il commence, avant même de commencer l'histoire de Sarsenbaï, par poser une question qui est fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? Mais non, disent les contes. Allons, écoutez-nous. Et que ces êtres qui nous peuplent, ces esprits, ces aides, ces fées, aient ou non des contours palpables, que vous importe? L'essentiel est qu'ils vous enseignent. Qu'ils ouvrent des portes dans vos murs, qu'ils vous civilisent, qu'ils vous apprennent au moins, vous qui n'avez jamais fait que vous battre, que la politesse véritable n'est pas pétrie d'hypocrisie sociale, mais bien plutôt de bonne volonté, de désir que l'autre soit bien. La vérité, quand on prétend la dire en général, on blesse. Avez-vous remarqué cela? Appliquez-vous plutôt à écouter la plainte des arbres, le sommeil des cailloux, ce que dit le regard des bêtes. Et peut-être entendrez-vous battre un jour le cœur du monde.
«
Sarsenbaï, c'est un conte. Il nous vient du pays des steppes. N'essayez pas de le comprendre. Écoutez-le plutôt comme un ami qui parle. Sarsenbaï est berger. Il est pauvre. Il n'a rien. Il garde le troupeau du seigneur du village. Son maître lui promet, pour salaire de l'année, une brebis boiteuse. Il en est bien content. Mais voilà qu'un loup vient. Il grogne. « Donne-moi un mouton, sinon je t'en tue 10. »« Je n'ai pas le choix, » répond Sarsenbaï. « Donc, en bonne justice, tu ne dois pas avoir le choix non plus. Ferme les yeux, prends au hasard. »« D'accord. » Le loup bondit, la gueule ouverte et les yeux dans le noir. Il tombe sur le dos de la brebis boiteuse. « Il pleut toujours sur les mouillés », dit un proverbe pessimiste. Voilà Sarsenbaï démuni comme il ne l'a jamais été. Le loup dévore sa brebis, mais lui abandonne la peau. « Tu en tireras bien quelque chose », lui dit le loup. Le garçon part à l'aventure, sa peau de bique sous le bras. Il parvient à la grande ville. Il vend sa peau de bique 3 sous au marché. Et que fait-il de cet argent? Qu'auriez-vous fait, vous, à sa place? Vous en auriez peut-être mis prudemment la moitié de côté, ou peut-être auriez-vous réfléchi? Comment, avec 3 sous, en gagner 5 ou 6? La question, apparemment, n'effleure pas notre homme. Son premier sou, il le donne à un mendiant. Drôle de type, ce mendiant. « Tu me donnes beaucoup, » dit-il à Sarsenbaï. « Je te donne beaucoup. » Il ramasse par terre une poignée de sable et la donne au garçon. « Vous, ou moi, j'en suis sûr, nous aurions estimé le bonhomme inquiétant. Nous nous serions détournés. Au mieux, nous l'aurions prise, cette poignée de sable, et nous l'aurions jetée, et nous aurions cherché une fontaine où nous laver les mains. » Sarsenbaï, lui, l'accepte, remercie, et la fourre poliment dans sa poche. Ce n'est pas un homme ordinaire. De son deuxième sou, il se paie une soupe et un coin où dormir dans une pauvre auberge. Le lendemain matin, il entend un marchand raconter en riant le beau rêve qu'il a visité cette nuit. Sarsenbaï, en l'écoutant, est ébloui. Il dit à l'homme, « Magnifique, je n'ai qu'un sou, je te le donne, j'achète ton rêve, il me plaît. » L'autre accepte, bien entendu, bonne affaire, un sou est un sou. Notre berger s'en va content, les poches vides. Il n'a vraiment plus rien qu'un rêve qu'il emporte sous ses cheveux. Il s'en va donc sur les chemins du monde, cherchant là du travail, là un lit où dormir. Mais personne ne veut de lui. Une nuit d'hiver, perdu loin des villages, épuisé, grelottant contre le vent glacé. « Dieu, dit-il, je me meurs, je ne peux plus marcher, que mon corps nourrisse les bêtes. » À cet instant de l'histoire, qui en nous sait ? Sans aucun doute que quelque chose va survenir. Qui en nous ignore le doute? Même l'enfant qui ne connaît rien encore des ruses du conteur, même lui sait, attend le surgissement de l'imprévu salvateur. Rien à voir avec les règles d'un quelconque suspense. Il n'y a pas de suspense. Il y a là, avec l'inconnu, une complicité de garnement, une évidence intime, joyeuse, indicible. Un loup sort de l'ombre. Son loup, celui qui l'a nourri de sa brebis boiteuse. Choisis le loup pour frère, il connaît le secret des forêts et l'honneur de la vie, dit un proverbe russe. Ils se reconnaissent, Sarsenbaï et le loup. Bien sûr que le loup se souvienne de ce pauvre berger qui l'a sauvé de la famine. Il grogne, grimpe sur mon dos. J'ai vu dans la forêt un feu que des brigands ont allumé. Ils ont levé le camp, tu pourras t'y chauffer. Le loup le conduit dans le bois, puis s'en retourne à ses chasses. Sarsenbaï s'endort près du feu. Au matin, sous les cendres tièdes, que découvre-t-il ? Un trésor, un coffret débordant de diamants innombrables. Fort bien, le voilà riche. L'histoire finit là ? Elle pourrait. Mais non, nous sommes ici dans un grand conte. C'est vers un trésor plus subtil qu'il veut nous faire cheminer. Suivons-le donc vers cette autre chose qu'un vieux conteur arabe que j'ai connu il y a longtemps appelait la musique du cœur du monde. Sarsonbaï fourre le coffret dans son sac et s'enfonce dans la forêt. Il rencontre un faon assailli par une bande de corbeaux. Il disperse la nuée noire. Voilà sauver la pauvre bête. Alors vient son père, le cerf. « Mon fils te doit la vie, » lui dit-il. « Sois béni, je ne t'oublierai jamais. » Plus loin, c'est un jeune mouflon qu'il délivre d'un piège. Et plus loin encore, un aiglon empêtré dans les épineux. Père Mouflon et Père L'Aigle remercient et bénissent aussi le bienfaiteur. Ce n'est pas un cerf, un mouflon, un aigle qui viennent remercier Sarsenbaï d'avoir sauvé leur progéniture. C'est le père des cerfs, le père des mouflons, le père des oiseaux. Nous ne sommes pas là dans un échange de bons procédés, mais bien plutôt dans le service sacré de la vie, dans cette absolue attention à l'autre, dans cet oubli de soi qu'on appelle l'amour. Sarsenbaï joue donc sa partition dans l'universelle symphonie qui tient éveillé le cœur du monde. Il parvient au bord d'un torrent où est une triste cabane. Là, il trouve Altina, une belle et pâle jeune fille, prisonnière de Jalmawizer, la sorcière, ogresse, dévorante, jamais rassasiée. Jalmawizer est absente, mais elle survient à l'instant même où Sarsenbaï prend la main d'Altina pour qu'ils s'enfuient ensemble. Et c'est alors que le coffret de diamants déniché dans le bois trouve sa juste utilité. Notre berger jette par poignées ces milliers de soleils au nez de la sorcière. Ces sortes de trésors ne sauraient émouvoir que les mères ogresses. Et de fait, Jalmawizer en est si fort bouleversée qu'elle en oublie un instant ses proies. Sarsenbaï s'enfuit avec Altina. Mais finalement, la sorcière se met à les poursuivre. Voici en action la nature brute, aveugle, ravageuse. Nous avons tous en nous cette force-là. Que lui opposer, sinon celle des êtres doués d'âme, ceux qui, dans le fracas des arbres qui s'abattent et des montagnes qui s'écroulent, ne perdent pas le fil ténu de la musique du cœur du monde. Décidément plus solide et vivace qu'on ne pourrait le croire. Jalmawizer brandit ses griffes derrière les enfants fuyards. Un cerf s'en vient à leur secours. Il les emporte hors de portée, puis un mouflon, enfin un aigle. Jalmawizer ne peut plus rien. Voilà les deux vivants sauvés, déposés au bord d'un village. Ils s'épousent, ils ont un enfant, ils vivent pauvres, ils sont heureux. C'est fini ? Non, pas tout à fait. Sarsenbaï, un jour, se repose sous un arbre de son jardin. Son fils grimpe sur sa poitrine. Sa femme se penche sur lui. Et là, il se souvient alors du rêve jadis acheté pour un sou. Il est là, au soleil d'été, exactement réalisé. Alors lui revient le mendiant et cette poignée de sable qu'il lui avait donnée. Il l'avait fourré dans la poche de sa vieille veste d'errant. Et elle est toujours là, cette veste. Elle est juste au-dessus de lui, suspendue par le col dans l'arbre. Le sable, toujours là aussi. Il tend le bras, s'emplit le poing de cette vieille terre brune et la jette au vent alentour. Sur la steppe apparaissent aussitôt des chevaux, des vaches, des moutons, des chameaux par milliers. De chaque graine de sable, un animal est né.
Les voisins, éblouis,
À court ? Il s'exclame « À quel seigneur sont-ils ces troupeaux innombrables ?»« Ils sont à moi. »« À nous ?» le répond Sarsenbaï. « À nous, c'est bien. À nous, ces beautés infinies. » C'était donc l'histoire de Sarsenbaï racontée par Henri Gougaud, qui rajoute encore à la fin de son chapitre puissance du rêve, puissance du désir accordé à la musique du cœur du monde, à ceux qui la jouent et l'entendent, la jouissance de la terre et la fécondité des troupeaux. Les diamants, soleils illusoires, pouvoir jamais rassasié. Goût du bonheur, désir d'avoir, ne coule pas de même source. Et maintenant, encore une histoire. Oui, encore une histoire parce que j'ai découvert des musiciens que vous connaissez sûrement, des chanteurs célèbres, mais qui ont maintenant, disons, un certain âge, s'ils ne sont pas pour quelques-uns d'entre eux disparus. Ils racontent des histoires. Écoutez celle-là.
Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué.
Et l'esprit frappeur a frappé.
Qu'est-ce que c'est?
Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé. Une ombre au mur s'est profilée. L'assistant s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré:
mais non, voyons, allons.
Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Runissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâcha, cha, 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 cha. Alors en rond, on se remit. Et puis on attendit l'esprit.
quand une dame poussa un cri en disant
« Ouh, ça y est, je le sens, c'est lui !»
Mais non, voyons.
Eh ben alors, qu'est-ce que c'est?
Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat. Que pensiez-vous là? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide. La médium alors se fâcha. Il chassa le chat. Ah! Drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue du chat.
Nasreddin, dedans ou dehors? Alors qu'elle se préparait à aller dormir, la femme de Nasreddin entendit du vacarme dans l'escalier. Boum, badaboum, badaboum. Elle appela son mari. Que se passe-t-il en bas? Rien, rien, répondit-il en gémissant. C'est Matché là-bas qui vient de tomber dans l'escalier. C'est drôle qu'elle fasse autant de bruit quand même. Et c'est que, malheureusement, j'étais dedans. Un soir, Nasreddin étendit Matché là-bas sur le fil à linge pour la faire sécher. Le matin, au réveil, il ne la trouva plus. Un voleur s'en était emparé pendant la nuit. Lorsqu'il se rendit compte du larcin, Nasreddin poussa des you-you de joie, ameuta le quartier. « Venez me féliciter, venez me féliciter !» Les voisins se rassemblèrent rapidement et demandèrent à la raison de tout ce bonheur. « On m'a volé, Matché, là-bas !»« Mais réfléchis un peu, est-ce une raison pour te féliciter ?»« Bien sûr !» Pensez donc, si j'avais été dans Matché, là-bas, comme c'est si souvent le cas, je ne serais plus parmi vous maintenant. Bon oui, c'est vrai, ces histoires de Nasreddin, je les avais déjà contées à cette antenne, mais peut-être vous en rappelez pas. Hein. Alors aujourd'hui, ben il y avait Henri Gougaud, le rire de la grenouille, et puis il y avait aussi plein de musiques orientales et les frères Jacques. Compte à rebours, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco.